EMCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Parole de femme. Alors aujourd'hui, on se demande que faire si on sait et quand on sait que quelqu'un pêche, que quelqu'un commet des erreurs. On a parlé de nos propres erreurs en début de semaine, mais aujourd'hui, on va parler des erreurs des autres. Et ça nous met aussi quelquefois dans des situations inconfortables. On ne sait pas, est-ce que je dois le dire, à qui je dois le dire, c'est quoi la limite entre je me mêle de mes affaires et j'interviens parce qu'il y a un problème, et parce que ça devient une nécessité. Et on peut tous se retrouver d'une façon ou d'une autre dans ce genre de situation, que ce soit peut-être dans notre immeuble parce qu'on sait qu'il y a une femme qui subit de la violence conjugale, dans notre église parce qu'on sait qu'il y a un enfant qui est en danger. Ça peut être aussi parce que parmi nos amis, on sait qu'il y en a un qui peut commettre un adultère. Donc ça peut être vraiment dans différentes sphères de notre vie, et on va se poser les mêmes questions à chaque fois. Alors aujourd'hui, on va voir avec Yveline. Yveline, on te salue avec Nadine et Aurélie. Ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire aussi dans ce genre de situation.
Dans Corinthiens, Paul va dire qu'il y avait du désordre dans l'église au point qu'il y avait un qui avait la femme de son père. Et que voilà, personne ne disait rien en fait. Mm-hmm. Et c'est de dire en fait que non, on doit être... En fait, c'est pas dans le sens de, tu sais, tu as dit, des fois on se dit, est-ce que j'en parle parce que je veux me mêler de mes affaires ou est-ce que j'interviens? C'est dans le sens que quand une personne pêche, là on parle vraiment de quelqu'un qui tombe dans un péché, une personne, donc ça veut dire que c'est dans un cadre des personnes qui connaissent le Seigneur, ça doit nous faire mal en fait. Ça doit nous faire mal, ça doit nous interpeller que cette personne vit avec une addiction ou elle vit avec un défi. Et on ne doit pas juste fermer les yeux parce qu'on sait que tant que cette personne est maintenue dans le péché, elle aussi, elle est en danger. Et donc, ce n'est pas dans un sens de pas se mêler de ses affaires ou de critiquer ou de médire, mais c'est vraiment par amour qu'on doit se dire quelle intervention est-ce que je peux poser. Et on va voir au courant de l'émission, évidemment, de les différents degrés, mais déjà d'être interpellé lorsque quelqu'un vit quelque chose de difficile. Des fois, on peut vouloir fermer les yeux et ce n'est pas normal. Comme tu parles, par exemple, même dans notre immeuble, on entend des cris dans la pièce à côté. Ce n'est pas normal qu'on ferme juste nos oreilles, qu'on mette nos écouteurs et puis qu'on continue à fonctionner. Non, on se doit d'assister. Donc, on se doit de dire qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il faut que j'intervienne au niveau des autorités, de l'autorité? Est-ce qu'il faut que j'aille parler à la femme directement? Mais tu es quand même interpellée. Donc, ça, c'est dans le cadre juste de la vie de tous les jours. Donc, à plus forte raison, lorsque notre frère est dans le péché, que ce soit dans l'église ou même dans notre cercle d'amis, on se doit d'être interpellé. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir au courant de l'émission. Mais déjà, la première chose aussi de savoir que je ne suis pas intéressée pour mal parler, mais parce que c'est par amour, en fait, que je dis non, Seigneur, cette personne ne peut pas continuer à vivre comme ça, intervient.
Mm-hmm. Et on connaît ce verset de Matthieu 18 qui parle de si ton frère a péché. On dit si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc ça, c'est un verset qu'on connaît plus ou moins lorsqu'on parle de quelqu'un qui pêche. Là, on parle de si ton frère a péché. Donc c'est dans le cadre de l'Église. Mm-hmm. Mais ici, il dit, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc ça, c'est comme la première étape avant d'escalader pour aller voir deux ou trois témoins. Et ce que j'aime par rapport à ce que tu as dit aussi, on dit ici, tu as gagné ton frère. En fait, toutes les étapes qui sont dites ici, le but, c'est de gagner ton frère. C'est ça qui compte, en fait, derrière. C'est que la personne... Le but n'est pas de condamner ton frère, mais c'est de gagner ton frère. Et quand tu comprends ça, mais même ta façon d'aborder va changer, en fait. Ta façon de le reprendre va changer. Donc, c'est de venir interpeller la personne. Puisque c'est la première étape, hein, vous êtes tous les deux. Mais je vois qu'il y a telle chose qui se passe. Mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Est-ce qu'on peut en parler? Et je pense que c'est une étape que parfois on est intimidé, on a peur, on se pose plusieurs questions. Un peu comme tu as dit tout à l'heure, mais ce n'est pas mes affaires. ils font ce qu'ils veulent chez eux, moi je ne me sens pas concernée. Mais c'est de pouvoir dépasser ces raisonnements-là pour dire, ben, il faut que je parle à la personne. Après, il y a la façon. Après, il y a aussi, c'est qui la personne. Tu vois, ça peut être ton voisin, mais ça peut être vraiment ton frère. Ça peut être ta sœur, ça peut être ton père, ça peut être quelqu'un, ton mari, quelqu'un de plus proche de toi. Comment on fait dans ces cas-là? Mais il faut la sagesse de Dieu pour interpeller aussi, parce que pareil, tous les péchés ne sont pas les mêmes. Un peu comme on a dit tout au long de cette semaine, tous les péchés ne sont pas similaires. Ça ne veut pas dire que... Enfin, le salaire du péché, c'est la mort, comme la Bible le dit. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il y a des péchés plus grands que d'autres. Mmh. Mais en fonction de ce que la personne a fait, ben, il y a des façons d'agresser qui seront peut-être différentes. Et ça, c'est des choses qu'on doit avoir à cœur lorsqu'on veut parler à un frère. Le but, c'est de le gagner. Le but, ce n'est pas de le condamner. Le but, ce n'est pas de pointer du doigt. C'est vraiment de gagner ce frère, cette sœur. Et alors qu'on est dans cette attitude, ben, il sera plus facile d'engager la communication, de parler pour faire juste la première étape que le verset nous a, dont le verset nous a parlé.
Et j'aime que ça dit ton frère, et il y a cette notion d'amour. Et je crois que quand on veut reprendre quelqu'un qui vit dans le péché ou qui commet le péché, on va d'abord aimer la personne. Donc parce que j'aime la personne, même avant d'y aller, Seigneur, dispose-moi. Seigneur, dispose son cœur aussi pour que lorsque je lui parle, il n'est pas fermé, il n'est pas sur la défensive. Mais c'est peut-être que genre, je vais arriver pour lui parler, puis c'est comme, oh, enfin Quelqu'un a le courage de venir me dire, c'est peut-être la perche qu'il avait besoin, en fait, qu'on puisse le tendre pour qu'il puisse s'en sortir. Et donc, du coup, avant même d'aller adresser la personne, parce que, comme Aurélie l'a expliqué, il faudra parler à la personne éventuellement, on ne va pas juste rester à observer. Avant même d'y aller, je crois qu'il faut d'abord qu'on puisse prier nous-mêmes d'abord pour avoir la bonne approche et vraiment d'être rempli d'amour aussi pour la personne. Parce que si on arrive et on est en mode condamnation, ça ne va pas aller, ça va pas voler plus haut. Mais si on arrive en mode amour, par exemple, tu parles de quelqu'un qui se comporte mal dans son mariage, ben, en mode amour pour te dire, écoute, Dieu t'a donné cette épouse, Dieu t'a donné cet époux, Dieu t'a donné ce mariage. Regarde, tu es en train de le perdre, tu vas le perdre par le comportement que tu as. Tu dois rebâtir, en fait, je veux t'aider à rebâtir. Donc, quand on vient avec cette approche-là, non, oh, regarde, l'infidèle, l'adultère, ben, c'est sûr que ça fait toute la différence, en fait, par rapport à la façon dont on va pouvoir parler et que l'autre personne aussi va pouvoir te dire, oui, voici, et un peu comme on a parlé en début de semaine, voilà, t'as avoué ses fautes, t'as avoué son péché, tout ça. Donc, je crois que la première étape, c'est d'abord d'aimer. Et donc, parce qu'on aime, on va prier d'une certaine manière et on va mettre un cadre, en fait, où on aura les outils pour savoir par où je vais y aller pour parler. Que ce soit, est-ce que j'y vais par la parole directement? Est-ce que j'y vais avec mon propre témoignage? Est-ce que j'y vais, voilà, avec une histoire que j'ai entendue, etc. Mais en tout cas, comment je vais emballer la chose pour pouvoir commencer à parler à la personne et la mettre face à ses actions aussi et de cette manière-là, commencer un processus de...
Et d'où l'importance de revenir à la parole de Dieu, parce qu'il peut y avoir tellement de façons de faire qu'on peut oublier, mais c'est quoi le modèle biblique? Mm-hmm. Et au-delà du modèle biblique, va voir ton frère, et puis s'il ne t'écoute pas, prends 2 ou 3 témoins, et puis après, blablabla, on voit qu'il y a vraiment un enchaînement. Mais au-delà de ces étapes, c'est de se dire, c'est quoi le cœur et la pensée de Dieu. Et je ne sais plus laquelle est ça, il le est but... c'est de gagner la personne, pas de gagner la personne dans le sens on va se mettre d'accord pour étouffer ton péché, mais t'amener à la repentance et t'amener à un changement et à une restauration, un rétablissement. Maintenant, Dieu n'est pas dans l'exposition, c'est pas t'as fait du mal, ok, la personne est exposée, c'est important que cette chose-là ne reste pas cachée. Mais on peut le faire dans l'amour pour que ça ne détruise pas la personne, mais pour que ça amène la personne à la repentance. Et après, oui, il y a ce modèle, c'est sûr, qui est quand même assez clair. D'abord seul et puis après à deux et tout ça. Mais c'est de se dire, comme vous l'avez dit, c'est quoi ma pensée? C'est quoi mon intention? Et quelquefois, quand je parlais d'adultère au début de l'émission, mais je ne sais pas, moi, tu apprends dans ta famille que ton beau-frère trompe ta sœur. En fait, mais t'es déçu, t'es triste, t'es fâché. Tu te dis, ah, mais si c'était moi, mais c'est pas toi. Et il peut y avoir différentes façons de vouloir intervenir dans la situation. Et se dire, peut-être que moi, la manière dont je vais le faire, parce que je suis sur le coup de l'émotion, parce que je viens de le découvrir et que vraiment, c'est horrible ce qu'il a fait à ma sœur, blablabla. Mais en fait, c'est quasiment... Bon, c'est exagéré, d'accord? Mais en tout cas, je ne participerai pas à la restauration parce que je vais venir exposer, ça va créer une explosion. Et c'est de se dire, OK, le cœur de Dieu, c'est de restaurer ce couple. Mmh. Donc, comment est-ce que je peux entrer dans ce processus de restauration sans pour autant étouffer l'affaire et sans pour autant cacher? Et ça, c'est, encore une fois, c'est une histoire d'équilibre. C'est oui. On est attaché à la vérité, puis il faut que la vérité sorte, et ça fait tellement de tort à l'Église de voir tous les trucs qui ont été cachés, les scandales qui ont été cachés et étouffés. C'est horrible, c'est une abomination, mais en même temps, de vouloir absolument exposer et faire exploser les gens, des familles entières, juste parce que seule la vérité comptait. C'est la vérité et l'amour qui vont ensemble. Et là, je pense que on peut trouver la sagesse de Dieu dans toutes les situations.
Mm-hmm. On a vraiment besoin d'être inspiré par Dieu parce que tout n'est pas si simple. Hein. C'est même là, on voit le modèle biblique et tout, mais parfois c'est pas simple. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que on peut pas le faire sans le Saint-Esprit. Je sais pas, un homme qui trompe sa femme, par exemple, qu'elle lui en a parlé, elle a vu des gens. Je veux dire, elle va pas le considérer comme un païen. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que parfois les personnes peuvent se retrouver dans des situations où elles vont se dire, mais j'ai essayé de faire ce que vous dites. Mais je n'arrive pas. La réalité, c'est que on vit avec ça au quotidien. Mais il faut la sagesse de Dieu. Moi, je crois vraiment que la sagesse de Dieu est grande, comme la Bible dit. Et quand on désire honorer le Seigneur en mettant en pratique sa parole, il y a un chemin par lequel on va passer. Ce ne sera pas le chemin forcément qu'on a pensé, mais le Seigneur va faire concourir les circonstances. Il va créer le chemin et on sera surpris à la fin de voir que « Ah, mais Dieu l'a fait, pas comme je pensais. » Parfois, on veut appliquer la parole de Dieu en se disant « Ok, j'ai fait ça aujourd'hui, et puis voilà, le changement, c'est maintenant, comme dirait un président en français. Mais ce n'est pas toujours comme ça que les choses vont fonctionner. Et je crois que c'est bien de le savoir. De savoir que ce n'est pas parce que je l'ai fait là que la personne en face qui a péché, tout à coup, va le faire, mais c'est l'accompagnement derrière. C'est pour ça que l'amour est trop important dans ce qu'on est en train de dire. C'est le cœur pour supporter l'autre, le cœur pour vraiment l'aider. C'est ça qui va faire la différence. Et j'encourage aussi les gens, ça c'est même un autre point, de ne pas s'associer au péché d'autrui, ouais. Parce que c'est aussi ce que la Bible nous dit. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que parfois, justement, en fonction du degré de proximité, mais parce que je t'aime. Je veux te couvrir au point où je laisse passer ces péchés-là. Et les gens mettent ça, la raison derrière, c'est que tu aimes la personne.
L'amour couvre une multitude de fautes.
C'est ça. Mais quand tu lis aussi la définition de l'amour, on dit que ça ne se réjouit pas de l'injustice. Mm-hmm. Ça veut dire que ce qui n'est pas bon ne doit pas, tu ne dois pas collaborer avec ce qui n'est pas bon. Même Paul, il donne la même recommandation à Timothée de ne pas s'associer au péché d'autrui. Et je pense que c'est important de renverser ces raisonnements dans la vie de plusieurs personnes. L'amour ne signifie pas « je couvre tes péchés », pas dans le sens de cacher. Couvrir dans le sens, comme tu disais Annabelle, je ne veux pas détruire ta vie. Il ne faut pas que cette chose-là vienne détruire ta vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas la chose. La chose doit être traitée et ça doit produire un changement. On ne doit pas s'associer à ces choses-là. Et dans le cas des personnes qui sont là comme ça et qui voient qu'elles ont de la peine à aider autrui, elles savent que ces personnes pêchent, mais elles ont de la peine à aider, c'est aussi de voir si... elles ne peuvent pas demander de l'aide. Être dans la position de la personne que parce que je vois que quelqu'un pêche, peut-être moi, c'est plus difficile pour moi, mais je peux demander de l'aide pour qu'on puisse accompagner le frère, la sœur, et pour que la vie de cette personne qui a un effet positif dans sa vie à elle.
Et quelquefois, il y a aussi tout l'aspect de la loi, de la justice, et on se pose la question, c'est quoi ma responsabilité? Parce qu'il y a des situations qui sont quand même, qui peuvent être très graves, et on entend aux nouvelles des drames qui arrivent quelquefois, je sais pas moi, un homme qui a tué toute sa famille, et tu te dis, les voisins, s'ils savaient qu'il y avait de la violence et tout ça, tu te dis, mais est-ce que j'aurais pas dû dire quelque chose? Est-ce que c'était pas de ma responsabilité? Et ça arrive aussi malheureusement dans l'Église qu'il y ait des situations où on se demande est-ce que je devrais pas signaler une situation, et on se demande moi après ça va être quoi ma responsabilité s'il y a quelque chose qui se passe. Et on a encore posé la question à notre amie l'avocate Benita: dois-je dénoncer un crime si j'en ai connaissance? Alors Benita, on te laisse la parole.
Bonjour à tous, bonjour Annabelle, bonjour à toute l'équipe de Parole de Femmes. Je suis Benita Sarkindongo, avocate au barreau de Paris depuis maintenant 9 longues années. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'interviens aussi également en tant que conseil juridique à l'international. Donc aujourd'hui, la question est de savoir si vous êtes témoin d'un crime ou d'un délit, est-ce que vous avez l'obligation en tant que témoin de dénoncer l'auteur de ce crime ou de ce délit. Tout d'abord, déjà, il faut définir ce que c'est que d'être témoin. Être témoin, c'est avoir vu, avoir entendu, de manière à discerner clairement non seulement l'objet du crime ou du délit, mais également la personne du crime ou du délit. Il ne s'agit pas de rumeurs, il ne s'agit pas non plus de simples soupçons. On peut être également témoin lorsque la victime vient directement se confier à vous pour vous faire part des différents sévices ou infractions qui ont été commises contre sa personne. Cela étant posé, donc je répondrai à cette question d'un point de vue purement juridique. Alors, il faut savoir qu'en fonction de là où vous vivez, la juridiction, le système juridique applicable varie. Si vous vivez au Sénégal, naturellement, c'est la loi sénégalaise qui s'applique. Si vous vivez en France, naturellement, c'est la loi française qui s'applique. Et chaque système juridique a ses particularités. Maintenant, ce qu'on dénote, quand même, de manière plutôt générale, c'est que la dénonciation de crimes est en général quand même fortement encouragée, parfois même dans certains pays rémunérée. Alors, il faut distinguer le crime du délit. Le crime, c'est l'infraction la plus grave. On parle de viol, de meurtre, on parle également de terrorisme. Alors que le délit, il s'agit d'infractions moins graves, mais qui peuvent être aussi quand même tout aussi importantes, je pense, au vol, cambriolage, etc. Et un délit peut passer à un crime avec certaines circonstances aggravantes. Alors, cela étant posé, comment ça se passe? Vous êtes témoin, par exemple, d'une violence conjugale à l'égard de votre ami. Qu'est-ce que dit la loi? Est-ce que vous êtes obligé de dénoncer l'auteur de ces violences conjugales, donc le mari de votre ami? Premièrement, si on regarde par exemple ce qui se passe au Sénégal, l'article 48 du Code pénal punit toute personne qui ne dénoncerait pas l'auteur d'un crime. De même en Côte d'Ivoire, et on arrive à des dispositions similaires en France, que j'expliquerai de façon un peu plus précise. Il y a seulement dans un pays, par exemple au Canada, où on n'observe pas d'obligation légale de dénoncer un crime ou même un délit. Alors en France, il y a un article particulier que j'aimerais vous lire, qui parle et précise un petit peu cette notion de non-dénonciation. Donc c'est l'article 434-1 du Code pénal qui explique que la non-dénonciation de crime est le fait pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'en France, lorsque vous avez la possibilité, vous avez connaissance d'un crime, là encore, les infractions les plus graves, et que ce crime peut être renouvelé, ou alors que ce crime peut être, que l'auteur, pardon, de ce crime peut renouveler à nouveau ses actions, vous pouvez être puni par la loi. Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et une amende également, dont je ne sais plus exactement le montant. Alors, il y a des immunités qui sont prévues par la loi, c'est-à-dire que, par exemple, les parents de l'auteur d'un crime sont immunisés, entre guillemets, et ne sont pas punissables si jamais ils n'ont pas dénoncé leur enfant. Il y a également le frère et la sœur de l'auteur d'un crime. Il y a aussi le conjoint de l'auteur du crime. Mais toutes ces immunités sautent à partir du moment où la victime est un mineur de moins de 15 ans. Donc ce sont des éléments à ne pas prendre à la légère. Lorsque vous êtes témoin d'un crime, vous avez l'obligation, sous peine d'être puni par la loi, de dénoncer l'auteur de ce crime, et notamment si ce crime a vertu à être de nouveau réitéré, à vocation, pardon, à être de nouveau réitéré. En tous les cas, je vous invite, peu importe le pays où vous vous trouvez, et que vous êtes témoin d'un crime ou un délit, à vous rapprocher d'un professionnel qui saura vous guider dans les différentes procédures afin de dénoncer l'auteur du crime ou du délit. Alors pour finir, je terminerai sur une distinction qu'il faut faire. C'est la distinction entre la dénonciation d'un crime et la délation. La délation, c'est quoi? C'est la dénonciation méprisable, honteuse. La loi n'est pas toujours juste, la loi n'est pas toujours en faveur de l'éthique et de la morale en fonction du pays où vous vivez. Les crimes qui sont énoncés comme tels ne sont pas toujours des crimes au regard notamment de la parole de Dieu. Donc je vous invite aussi à beaucoup de sagesse et à solliciter la direction du Saint-Esprit.
Merci beaucoup encore une fois pour cette réponse très complète et très intéressante et en même temps très sage. Une des choses que Benita nous disait, entre autres, c'est de se tourner vers un professionnel et quelquefois en tant que chrétien, on a comme une espèce de pas appréhension, mais on n'est pas vraiment disposé à aller voir des professionnels. On se dit, oh, c'est comme ça va être des ennemis. Alors, c'est de choisir le professionnel vers qui on peut se tourner. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de services juridiques en ligne qui offrent de l'aide. C'est sûr, ils ne peuvent pas vous défendre forcément, mais en tout cas, apportent des conseils, même de façon gratuite. Donc, si vous êtes dans une situation que vous jugez compliquée, vous vous retrouvez, vous ne savez pas si finalement, ce n'est pas sur vous que ça va retomber, c'est important d'aller chercher de l'aide et de savoir que dit la loi et quelles sont mes obligations. Donc, n'hésitez pas à aller chercher cette aide professionnelle. Et encore une fois, merci beaucoup, Benita, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions de façon professionnelle, d'avoir un retour professionnel. C'était la minute juridique dans Parole de Femme, on en fait pas souvent. C'est extrêmement instructif. Et donc, que disais-je?
Mais moi, je pense aussi qu'en plus de ce qu'on a dit...
Parfait.
je pense que c'est Maître Benita qui l'avait aussi dit dans sa vidéo qu'on a écoutée lundi, c'est que quand on parle de que faire aujourd'hui quand quelqu'un a péché, c'est que tu dois vraiment... C'est pas juste des suspicions. C'est pas que quand je regarde la sœur, je vois que bon, parfois elle s'habille d'une certaine manière, certainement que cette sœur, elle pêche en fait. Et c'est important de réaliser ça, que c'est pas de la suspicion, c'est pas les on m'a dit, on a fait, on a des ragots, c'est pas ça dont qu'il s'agit, mais c'est vraiment des faits avérés. Je fais ma juriste.
C'est clair. Ça te serait bien, Aurélie.
C'est des faits vraiment avérés, c'est que on peut mettre des faits sur ce qu'on est en train de dire. Mmh. Donc ça, c'est important. Et de l'autre côté, aussi, je trouve que c'est important de ne pas minimiser l'importance d'un péché. Parfois, pour ne pas se confesser, pour ne pas aller vers la personne, on peut banaliser un péché et dire que « Ah non, c'est que du mensonge, ça va, il n'a pas commis de fornication, donc ça passe. » Tu vois, mais c'est important de ne pas banaliser certains péchés. Et si on voit que c'est récurrent dans la vie d'une personne, comme on a dit au début de l'émission, ne pas avoir peur d'interpeller la personne sur cette chose-là. On n'est pas toujours obligé d'attendre que ce soit le péché qu'on estime être gros à nos yeux pour pouvoir interpeller une personne. C'est quand on remarque des choses qui ne vont pas, on peut le faire, comme on a dit, dans l'amour. Mais c'est important d'interpeller lorsqu'on l'a vu, en fait.
Mm-hmm. Moi, j'ai encouragé aussi à suivre la personne dans le temps, en fait. On parlait tout à l'heure de couvrir les péchés, de couvrir les fautes de l'autre et de cacher. En fait, j'aimerais aussi interpeller, quand c'est quelqu'un proche de toi, tu en parlais d'une situation, par exemple, d'injustice, ta belle-sœur vit quelque chose, et toi, parce que c'est ton frère, parce que c'est ton fils, exemple, tu minimises, tu banalises la situation, mais une faute, un péché est un péché. Et non seulement cette personne-là est en train de s'enfoncer, il y a une éternité qui l'attend aussi, mais que toi, qui as pu la sauver, entre guillemets, qui connaissait la vérité, qui connaissait une autre manière, tu la laisses aller dans cet état-là, tu n'aides pas non plus. Et l'amour, ben c'est ça aussi. L'amour, c'est aussi vouloir que l'autre personne s'en sorte. Et l'amour aussi va aussi à chercher à rétablir la vérité, en fait, à rétablir les choses dans le bon ordre. Donc, c'est vraiment important, cet aspect-là. Et le deuxième aspect, le deuxième aspect,
arrête de le répéter,
ce serait de suivre la personne dans le temps. Ça veut dire, j'ai remarqué qu'une personne pêche, oui, d'accord, ok, on l'a dit, mais après. Et des fois, la personne a besoin d'un accompagnement. Je me rappelle d'un insight qu'on a fait d'une personne qui était violente et on a appris que le pasteur avait accompagné cette personne pendant 2 ans, semaine après semaine, jusqu'à ce que vraiment cette personne puisse être transformée complètement. Et donc des fois, quand on remarque aussi un péché, c'est pas juste de dire je l'ai dit, j'ai amené la lumière, je t'ai dit c'était quoi la vérité, mais d'être aussi là pour accompagner la personne le temps que ça va prendre pour qu'elle soit complètement restaurée.
Et oui, la Bible dit que celui qui ramènera un pécheur sauvera son âme. Et comme tu disais, il y a une question aussi d'éternité. Et quelquefois, on peut choisir de rien dire, pas à cause de la peur, mais à cause d'une certaine forme d'égoïsme, parce qu'on n'a pas envie de s'encombrer de cette histoire-là. On n'a pas envie d'être mêlé à tout ça. Mais ceci dit, il y a des choses que le Seigneur permet qu'on puisse voir et qu'on puisse savoir. On se retrouve face à une information, on se dit, mais attends, ça vient d'où ? Mais en fait, c'est parce que Dieu veut te faire participer, pas au péché, mais Dieu veut te faire participer à cette restauration. Et souvent, Dieu a déjà parlé à cette personne de différentes façons, mais quand la personne n'a pas voulu entendre, ne s'est pas humiliée elle-même dans l'intimité avec Dieu, c'est là où Dieu peut aussi amener d'autres personnes à pouvoir être au courant de certaines situations. Et encore une fois, c'est pas pour les exposer. C'est pas Dieu qui est en train de dire « Ah, je te donne un petit secret et tout ». C'est comme ce frère ou cette personne a besoin d'aide et tu peux être cette personne qui va l'aider. Tu peux être cette personne qui va aller le voir, qui va pouvoir lui parler avec vérité, mais aussi avec amour. Donc, c'est de se dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information ? Est-ce que c'était un hasard, une coïncidence ? Ou alors, est-ce que c'est parce que tu attends quelque chose de moi ? Est-ce que c'est parce que je fais partie de la solution maintenant, sans dire que je prends la place de Dieu, etc. Je suis au contrôle de tout. » Mais non, mais d'être participant avec Dieu et de dire « Écoute, je vais être malléable dans cette situation et je vais faire ce que toi, tu me demandes de faire. Et peut-être que vous aurez la joie de pouvoir ramener un pécheur et de pouvoir voir son âme être sauvée. » Alors, merci beaucoup les filles. Demain, on va se retrouver. Puis, on va parler des personnes mystérieuses. Es-tu une personne mystérieuse ? Alors, à demain dans Parole de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.